Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue pour ce dernier podcast de Perdusa de 2008 avec trois rescapés des réveillons de Noël. Tigrou.
Bonjour.
Tom.
Bonjour.
Et moi-même, nous allons faire le point sur les séries de cet hiver, enfin celles qu'on a regardées. Et puis on discutera ensuite de nos séances de rattrapage des vacances de Noël. Et enfin, on discutera de ce que l'on attend de la saison de l'année 2009.
Voilà.
Allez, c'est parti sur les séries de cet hiver. C'est terminé True Blood, qui a marqué les petits esprits de Perdusa et particulièrement celui de Tio, qui n'était pas là au dernier podcast, qui va pouvoir nous parler de sa série favorite.
Oui, True Blood, c'était la série que je suivais avec le plus de plaisir cette année. En même temps, je ne suivais pas grand-chose et encore moins des bonnes séries. Mais True Blood, c'était vraiment rafraîchissant, en fait. C'était Alan Ball
comme
qui...
Fringe.
Oui, je ne sais pas si on peut comparer. Mais je trouve que c'était sympathique de voir Alan Ball faire quelque chose de complètement différent de Six Feet Under. Une série qui se prend pas au sérieux, mais qui en même temps fait pas dans le second degré en permanence, qui était agréable à suivre, très bien réalisé, souvent drôle, avec une très bonne ambiance. Voilà, je sais pas quoi dire de plus sur True Blood, à part que c'était très bien.
Moi j'ai trouvé le dernier épisode vachement réussi. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes des 20 premières minutes avec Tara et Michelle Forbes, un peu lente dans sa maison, mais moi j'aimais bien l'ambiance, je trouve que ça installait bien les enjeux de la prochaine saison. Et puis alors la confrontation avec René, c'était vraiment génial quoi.
C'est qui René?
C'est le français, c'est le tueur.
C'est René,
le français.
Bah le tueur quoi. Celui qui a essayé de tuer
Strangler.
Ah oui, oui, d'accord.
j'ai découvert la série, excusez-le.
Non, en plus, j'ai dû voir les trois derniers épisodes il y a une semaine.
Voilà, qui avait un faux accent, mais qui, dans ses pensées, parlait avec son accent normal.
Alors, le gros hic de True Blood, c'est quand même que Suki, qui est capable de lire dans les pensées des gens, a mis 12 épisodes à se rendre compte que le mec qu'elle voit tous les jours dans son bar est l'assassin.
Mais non, mais
j'ai toujours pas compris
parce
pourquoi.
Parce que dans le bar, elle s'interdit de lire dans les pensées.
Parce que c'est horrible, imagine.
Et particulièrement dans les pensées des gens qu'elle côtoie tous les jours, qui font partie de son cercle intime.
Sinon, elle aurait compris aussi que Sam, c'était un métal.
Un métamorphe.
Ouais, c'est
un métamorphe.
C'est la traduction de. Comment ils disent en anglais, j'ai oublié. Enfin...
Un form shaper.
Form shaper, bah voilà, c'est un métamorphe.
Un chien, quoi, un chien garou.
Un chien garou, ouais.
Alors, c'est vrai que la confrontation était très réussie dans le dernier épisode.
Notamment grâce au flash.
J'étais agréablement surpris parce que c'était pas du tout ce que j'attendais. J'avais l'impression que tout allait être un peu convenu dans ce dernier épisode parce que l'identité du tueur n'était pas excessivement surprenante et puis on s'attendait un petit peu à ce que Suki soit en danger, à ce que Bill puisse pas venir l'aider parce qu'elle lui avait interdit l'accès à sa maison. Finalement, c'était assez surprenant, donc j'étais content.
Puis alors là...
Vous vous sentez pas frustré par les dernières images et la... probable, possible mort de
Lafayette.
De Lafayette.
Alors, moi, je me dis que pas mort avant le générique de fin, pas mort du tout.
Pas mort
c'est
du
une
tout,
règle hein. Qui marche assez bien en général. Donc, j'ose espérer qu'Alan Ball n'a pas tué le meilleur personnage. C'est vrai que c'était un des défauts de la série, j'ai trouvé, True Blood, c'est qu'ils ont tendance à tuer leur personnage trop vite. J'étais assez déçu par la mort de Lizzie Kaplan qui
arrive moi, trop vite fait, voilà, et qui finalement est pas...
Bah, surtout que c'est toute son intrigue en fait juste avant avec le vampire mort et tout. Et tout le fait qu'elle revenait sur son obsession, enfin sa drogue par rapport au V et tout ça. Finalement tout ça est détruit quoi quand elle se fait tuer. Donc on se dit c'est du remplissage avant. C'est un peu dommage quoi. Et Lafayette. En plus, il avait disparu pendant 2 semaines. Parce qu'il y a un bond de 2 semaines dans le dernier épisode. Donc, on ne sait pas ce qui lui est arrivé pendant ces 2 semaines. Ça se trouve, ça va avoir une importance.
Ouais. On verra bien le prochain. Mais je pense que ça pourrait être un des défauts de la série, d'évacuer trop vite certaines intrigues, de tuer trop vite certains personnages. On verra dans les prochaines saisons. Mais en tout cas, cette première saison n'était pas son défaut, mais était quand même très, très agréable à suivre et très réussie.
Et d'autres séries bourrées de défauts, mais qu'on suit quand même, hein, c'est des séries des Pofi, des ABC. Commençons avec Ugly Betty, par exemple, qui est assez souvent décriée ici dans les podcasts. Pourtant, cette saison 1, Tigrou, est quand même vachement bien.
Oui, tout à fait. Le début de la saison était absolument catastrophique. J'ai failli arrêter la série. C'était moralisateur, pas drôle, complètement raté. Et puis, ils ont viré pas mal de personnages. Ils ont viré le personnage d'Alexis, qui était un personnage que j'aimais beaucoup, mais il faut reconnaître qu'il servait strictement à rien, parce que jamais les scénaristes n'ont réussi à lui trouver une intrigue.
Et puis, ils n'ont jamais utilisé ce qui faisait sa particularité, le fait que ce soit un transsexuel. On l'a su au début, c'était marrant pour son arrivée, et puis ils ne l'ont jamais utilisé.
Non,
sinon,
ça n'a jamais été... Non, puis surtout, Alexis, c'était un personnage qu'ils n'ont jamais su intégrer à la série, puisqu'au départ, ça devait être la méchante de la série. Et puis, quand ils l'ont intégrée, ils se sont aperçus entre-temps que Vanessa Williams est une très bonne méchante, donc ils ont décidé de garder Vanessa Williams en méchante. Et du coup, ce personnage d'Alexis n'a jamais vraiment eu d'intérêt ou même un rôle vraiment à jouer dans la série. Donc elle est partie, c'est pas plus mal. Et depuis, je trouve que la série...
Ils ont évacué aussi Lindsay Lohan.
Voilà.
Lindsay Lohan
a été... resté un épisode.
Ouais. Juste une pauvre guest star dans des intrigues redondantes. Enfin, on avait déjà vu ce genre de choses.
Mais surtout, elle ressemblait trop à Amanda, donc c'était pas vraiment. Enfin, le personnage avait pas vraiment d'intérêt. Je sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont très mal partis et qu'ils s'en sont aperçus parce qu'ils ont corrigé le tir après 4-5 épisodes. Ils ont complètement changé toutes leurs intrigues de direction. Ils ont viré tous les trucs encombrants, genre le fils de Daniel. Enfin, c'était évidemment une mauvaise idée d'amener un fils caché, mais ça. Tout scénariste de la télévision devrait le savoir. Bon, ils s'en sont aperçus un peu tard, mais ils l'ont viré aussi. Et depuis qu'ils ont fait ce petit nettoyage des intrigues, moi j'aime beaucoup. Je trouve que les épisodes sont... Il y a un bon équilibre entre la comédie et des trucs un peu plus sérieux. Ils abordent à nouveau des sujets intéressants. Le fait que Betty soit pas un top modèle et que parfois ça peut lui compliquer la vie. Même la discrimination positive, j'ai trouvé que dans une série ABC, qui sont en général les séries sont assez aseptisées, c'était intéressant d'aborder ce sujet, même si c'était pas fait de manière exceptionnellement intelligente.
Et puis il y a la meilleure idée quand même depuis le début de la série, c'est de coller Amanda en colocataire de Betty, qui lui donne un peu plus de temps d'écran, et puis...
Et puis c'est drôle.
Elle est drôle, Amanda. Ils réussissent à la bien utiliser. J'espère qu'ils vont pas la surexploiter, qu'elle va perdre justement son petit côté, le petit plus de Libetti qui sont Marc et que sont Marc et Amanda. Mais là, pour l'instant, ça se passe bien. Ils arrivent plutôt à bien gérer son personnage.
Pour l'instant, oui, elle est pas trop présente. Elle est juste là comme il faut. Je trouve aussi qu'ils ont bien réussi à réintégrer Vanessa Williams dans la série. Parce que l'an dernier, c'était bien sympa, son intrigue, comme quoi elle essayait de prendre le pouvoir à mode en faisant des complots et tout. Mais ça l'avait un petit peu exclue, et je trouve que la remettre finalement en rédactrice en chef avec Daniel, et mettre un peu de côté toutes ces histoires de complots pour simplement jouer sur, sur le duo comique entre les deux, c'est plutôt pas mal. Enfin, moi j'aime beaucoup cette année, ça me fait rire, et c'est une des séries que je suis avec le plus de plaisir.
Autant que Desperate Housewives, la nouvelle saison. Transition incroyable.
J'aime beaucoup aussi la nouvelle saison de Desperate Housewives. Je trouve que le bon de 5 ans a pas, qui pouvait paraître inutile et finalement pas plus mal. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup tout ce qui touche à Gabriel et Carlos en fait. Je trouve que leurs intrigues sont assez réussies.
Ouais, enfin, depuis qu'il a retrouvé la vue, c'est un peu des. Enfin,
oui, mais ça c'était obligé. Enfin, ils n'avaient pas demandé au comment il s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle.
Acteur qui joue Carlos.
Chavira, quelque chose de garder les yeux dans le vide pendant 5 ans de plus.
Mais pourquoi c'est dommage.
Mais non, je trouve que c'est assez rafraîchissant cette année. J'aime bien le nouveau méchant. Dont l'intrigue n'est absolument pas surprenante, mais je trouve l'acteur très...
Charismatique.
Voilà, charismatique, il a un rôle un peu ambigu qui gère plutôt bien. Je trouve qu'une fois de plus, Suzanne a été séparée de Mike, et c'est très bien, parce que Terry Hatcher est beaucoup plus drôle quand elle est sans... James Denton. Lynette ne sert toujours à rien, mais ça fait 4 ans qu'elle n'a pas d'intrigue, ça n'allait pas commencer cette année.
Eddie est plus douce cette année, ça m'énerve un peu.
J'aimerais bien qu'elle fasse
plus. Bah, elle est vraiment en retrait là, elle sert ouais. vraiment
c'est,
pas
c'est
à grand
dommage,
chose.
C'est dommage en plus, sachant qu'elle est liée au méchant, enfin c'est un peu.
Ouais, mais c'est, ça l'intègre. Ça... Moi je trouve ça. Je trouve que cette année je ris devant la série. J'ai peur que ça soit comme les saisons 3 et 4 et que passer le 10e ouais. épisode ça redevienne complètement nul. Mais pour l'instant, je suis content et je me dis que finalement, peut-être un jour, je me ferai une intégrale d'Desperate Housewives en regardant que les 10 premiers épisodes de chaque saison. Et ça sera très bien. Et ils ont même réussi à intégrer Catherine à une intrigue, alors que je me demandais à quoi ça servait de garder
le. Quoi, avec Mike ?
Oui, bah ça donne un peu de.
Ouais. Bon, ça lui donne un peu de temps d'écran, mais c'est vrai qu'elle est quand même sous-exploitée cette saison. Ouais. Moi j'ai bien aimé le fait que l'intrigue policière permette à Mrs. McCluskey d'avoir plus de choses à faire. Je trouvais ça assez marrant, sa petite intrigue de détective avec sa frangine. J'espère que ça va continuer, bien que j'ai un peu oublié ce qui s'est passé. Elle en est où? Elle est à l'hôpital
Mrs. McCluskey.
Elles ont appelé le psychologue. Ah, ça c'était énorme quand même, l'épisode où le psychologue qui sait qu'il a affaire à un psychopathe notoire décide de le suivre dans un placard à balai et ne comprend pas ce qui se passe et se fait étrangler en moins de 10 secondes.
Ouais, c'était puissant cet épisode. Hein.
Ouais, c'était un peu consternant pour le coup, mais à part ça c'est bien. C'est Desperate Housewives, vite vu, vite oublié, mais ça se regarde.
Moi j'aime bien les nouvelles, quand ils abordent un peu les relations entre Brie et son fils. Mais maintenant, est-ce qu'il est, il va se marier ou il,
enfin
il
a. Oui, ça c'était un peu con.
C'est un peu con.
Ouais, moi j'attendais quand même une énorme révélation sur le secret du copain de son fils, de son fils.
Ouais.
Le coup du truc porno, c'était un peu ridicule. Ouais.
Le seul truc qui m'a fait rire, c'est que finalement ils en fassent pas un plat, parce que j'avais peur que ce soit le drame, qu'ils en fassent un drame à la Privilege. Bon, ouais. Finalement, non.
Non
mais
non,
c'était
non.
assez dispensable pour le coup.
Ouais, ça apportait rien à la relation, ça apportait rien à l'évolution de Brie par rapport à son fils dont j'ai oublié le prénom. En ce moment, j'oublie tout ce qui se passe.
Mais moi, j'ai bien aimé en fait qu'il rappelle aussi qu'il s'était prostitué quand elle l'avait abandonné, tout ça, enfin. De toute façon, moi j'aime bien quand on rappelle un peu ce qui s'est passé et que on.
Moi ça me dérange toujours un peu quand ils rappellent ce qui s'est passé dans la saison précédente de Desperate Housewives. Non, parce que d'habitude dans une série c'est toujours sympa d'avoir de la continuité. Dans Desperate Housewives, quand ils font de la continuité, tu te rappelles qu'il y a quand même eu vraiment du grand n'importe quoi pour les 4 années précédentes. Parce que Andrew, il a quand même, je sais pas, il a assassiné quelqu'un, il s'est prostitué, il a essayé de tuer sa mère. Enfin. Si tu commences à rappeler, tu t'aperçois qu'il n'y a aucune
cohérence dans la série. Oui, parce qu'Andrew, c'était une espèce de malade psychopathe, sans aucun sentiment, etc. Maintenant, c'est le gentil fils.
Ouais.
Bon, c'est vrai que dans Desperate Housewives, la série, elle ne brille pas par,
sa cohérence,
par la continuité et la cohérence de ses personnages. Mais ouais, c'est comme tu dis.
C'est des sketchs.
C'est Desperate Housewives, c'est des séries d'ABC qui sont gentilles à regarder, facilement oubliables. Bah, continuons dans notre lancée avec Brothers and Sisters.
Ah, c'était pas terrible, hein, les derniers Brothers and Sisters. Enfin, moi, à un moment, j'étais vraiment consterné. Je me souviens quand Tommy râle après sa mère parce qu'ils sont venus le soutenir à l'hôpital, quoi.
Mais il avait trop raison, moi aussi. Bah, on va mettre dans le contexte pour les 95% de gens qui ne regardent pas la série, mais en gros, la mère voulait absolument organiser un dîner de Thanksgiving pour tous ses enfants qui voulaient pas venir. Et puis finalement, sa petite fille est gravement malade, elle est en train de mourir à l'hôpital parce qu'il faut qu'on lui greffe un foie ou quelque chose. Et évidemment, comme on est dans un soap, la fille n'est pas... pas la vraie fille biologique de Tommy, donc son père, mais en fait c'est la fille biologique d'un de ses deux frères et on ne sait pas lequel. Donc il y a une histoire un peu compliquée, il faut identifier le père pour pouvoir faire une greffe de foie. Et évidemment, pendant que la petite fille est en train de mourir dans d'atroces souffrances, la mère décide d'organiser un dîner de Thanksgiving dans sa chambre d'hôpital en distribuant de la dinde et tout. Et elle comprend pas que son fils le prenne mal. Et moi j'étais d'accord.
Ah, j'ai pas du tout vu ça comme ça, je trouvais que c'était sympa à tous venir le soutenir. Puis il m'énerve, Tommy a râlé tout le temps, c'est ça, parce qu'il râle tout le temps, alors je fais même plus la différence quand il s'est justifié ou non.
Mais.
Ah non, il m'agaçait, je voulais juste qu'il meure à la place de sa fille.
Mais il va mourir bientôt, ils essayent de virer l'acteur depuis 2 ans.
Oh, tant mieux.
ce serait lui ou Rob Lowe. Moi, j'aimerais bien que Rob
Lowe. Mais les deux en même temps, dans un vieux voyage en avion.
On pourrait s'apercevoir qu'ils sont amants et du coup, ils sont bannis par la famille.
Mais Rob Lowe, face à cette saison, est moins insupportable que précédemment, puisque on évacuait toute l'intrigue, toute son intrigue politique.
Politico, qui
ressemblait à une espèce de spin-off intégré dans la série où ils étaient vraiment avec Kitty complètement à part. Mm. Là, c'était plutôt simple. Enfin, il fait un peu plus partie de la famille maintenant. Ouais. Il est un peu encore extérieur et justement, ça lui permet de s'engueuler avec Nora, enfin d'agir comme il devrait, pas comme son personnage de conjoint d'un des personnages de Brothers and Sisters devrait le faire et pas comme le gars de The West Wing qui joue dans Brothers and Sisters et qui a rien à faire avec le reste. Non, pour l'instant, Rob Lowe ne me dérange pas dans Brothers and Sisters.
Moi, je trouve qu'il est plus supportable cette année parce que les autres personnages commencent à le... à avoir... Enfin, il commence
il
à être
Kevin et
tout blanc. Les autres personnages commencent à avoir des doutes sur lui. Mais je trouve que le problème de Rob Lowe, c'est que c'est quand même une grosse star qu'ils ont intégrée à la série. Et du coup, il a un temps d'antenne qui n'est pas justifié pour son personnage parce que c'est simplement le conjoint de le conjoint de Kitty, donc il devrait pas
c'est
avoir autant
de la
temps d'antenne
de...
et son
de Tommy, voilà. Oui, elle peut s'éclater l'actrice quand même parce que ça fait 3 ans qu'elle est là. Elle a son épisode par an où bon, là elle a 10
quand
répliques.
Son fils est en train de mourir.
C'était dans le même d'ailleurs.
Elle a réussi à pleurer, mais sinon la pauvre, elle doit s'éclater. J'espère qu'elle a une bonne caravane et qu'elle peut s'amuser.
Comme le
moi, je
Kevin,
pense à un rôle en or parce qu'elle a pas trop de boulot, elle peut faire des trucs à côté, puis elle a un salaire fixe, un salaire régulier. Donc, non, mais par exemple, Scotty, qui est un personnage que j'aime bien, c'est pas une grosse star, donc il l'utilise seulement quand il a une intrigue.
Une grosse star.
Ah,
d'accord, ouais,
ah,
grosse
star.
Parce que pour moi, Rob Lowe, vu le prix qu'ils doivent le payer, ils sont obligés de l'utiliser, et parfois, ils l'utilisent dans des intrigues qui sont pas forcément. Intéressante.
Il y a un truc aussi dans Brothers and Sisters qui est assez terrible, c'est qu'elle fait partie de ces séries dans lesquelles se recyclent les acteurs de The Wire. Mm-hmm. Là, on retrouve Kima de The Wire qui joue la mère porteuse. Et là, en ce moment, il y a tous les acteurs de The Wire qui apparaissent dans des séries traditionnelles. Il y a Rhonda, la procureure, qui est maintenant dans Eli Stone. Non, c'est terrible, il y en a un qui finit dans Heroes. Il y a Tristan, je sais pas quoi, qui est dans Beverly Hills. C'est tragique. Ils auraient dû tous rester à Baltimore et faire du théâtre sur place, je sais pas, mais intégrer dans ces séries.
Surtout que Brothers and Sisters, c'est vraiment la série spécialiste pour prendre un acteur qu'on a adoré dans une autre série et lui filer un rôle. Mais vraiment absolument ridicule, où il a 3 lignes, ils ont pris Kiss de Veronica Mars, il avait genre 30 secondes à l'écran, il servait strictement à rien, et ça fait un peu de peine quand ils font ça.
Mais c'est comme les acteurs de Six Feet Under, on les a revus un peu partout ces derniers temps.
Transition
pour parler de Dirty Sexy Money. dont les épisodes
c'est fini ou ils vont encore diffuser
mais c'est pas il en reste 3 je crois et apparemment ABC a dit qu'il les diffuserait vaguement cet été donc c'est à dire qu'on les verra jamais.
Je pensais que j'avais vu le dernier épisode la dernière fois en fait.
Et bah oui c'est en tout cas c'est le dernier épisode diffusé.
Oui moi je pensais que c'était le dernier tourné aussi, je me disais ça conclut pas vraiment la série alors que dans ma tête ils avaient pu conclure la série sur le dernier épisode.
Je crois même pas c'est pas bien sûr, mais même je crois que le 13e épisode conclut pas la série. Mais déjà, on sait toujours pas qui a tué.
Mais justement, moi je pensais que mon
père
de
Nick.
Mais je suis pas sûr qu'il le sache même parce que c'est faussement compliqué. Mais c'est pas. Dirty Sexy Money, ça a très bien commencé cette année. Les premiers épisodes étaient assez réussis. Ça donnait envie de voir la suite, et je trouve que ça s'est dégradé d'épisode en épisode, c'était vraiment du n'importe quoi. Le personnage de Lucy Liu avait aucun... Il y a quand même eu un épisode où on apprenait dans le même épisode que Lucy Liu, en fait, quand elle couchait avec le fils de Tripp, c'était un piège organisé par la mère pour la faire virer de son procès, alors que techniquement ils avaient commencé à coucher ensemble avant, mais c'est pas grave, ça n'avait pas besoin d'être cohérent. Et puis 5 minutes plus tard, Lucille se fait virer. Puis 5 minutes plus tard, elle se fait embaucher par le frère. Puis 5 minutes plus tard, on apprend qu'elle travaille pour Simon Elder, donc elle est méchante. Et puis 5 minutes plus tard, en fait, son frère est pris en otage, donc elle n'est pas méchante. Et c'était comme ça toute la saison, des retournements de situation un peu trop rapides, trop mal foutus. Puis des personnages qui réagissaient pas bien entre eux. La plupart des frères et sœurs étaient assez isolés. Et je suis seul à regarder, en fait, c'est ça ?
Non, mais on boit tous tes paroles en étant juste d'accord avec toi.
J'aime bien, la seule que j'aime bien, c'est Karen, en fait, dans la série. C'est la seule, je trouve, l'actrice...
Karen, c'est la sœur Darling, celle qui est... qui est amoureuse de... Ouais, c'est ça.
Nymphomane, entre guillemets. Mais j'ai trouvé... Son intrigue n'était pas spécialement réussie. Enfin, ils n'ont pas réussi à bien la conclure ou quoi que ce soit, mais j'aime bien l'actrice et le personnage me fait rire. Et je crois que c'est Rebecca Gert, au départ, qui devait avoir le rôle, non ? Ou peut-être que je confonds. Ou peut-être que c'est juste un rôle que j'aurais bien vu avec... Et je trouve que l'actrice est bien meilleure, justement, et aurait... Voilà.
Allez, une dernière série qu'on a pu regarder cet hiver. Hein, encore une grande série d'action, hyper virile, plein de testostérone. Vous pensez quoi de Gossip Girl jusqu'à présent ?
C'était du Gossip Girl, quoi, jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, je me demande s'il n'y a pas une construction qui s'est faite petit à petit par rapport au fait que Dan il a découvert des trucs sur le père de Chuck et ça a eu des conséquences après sur au moment des funérailles. Enfin, j'ai pas tout compris, en même temps je regarde qu'à moitié Gossip Girl, mais Gossip Girl, je continue à regarder ça. Il y a des moments qui me plaisent bien, d'autres moments où je suis consterné. Quand Blair avoue finalement son amour à Chuck, j'ai trouvé ça mignon. Enfin, j'étais pas, ça m'a pas déplu. Je trouve ça sympa.
Moi, j'aime beaucoup Gossip Girl et pour moi, c'est Gossip Girl réussit là où Dirty Sexy Money échoue, c'est-à-dire que c'est un bon soap. Les personnages restent relativement cohérents et on arrive à utiliser les différentes relations qui existent entre tout le monde sans qu'il y ait besoin de trop nouveaux personnages dans les épisodes. Ça fonctionne, j'aime toujours autant Serena et son accent bizarre, on a un peu de la purée dans la bouche, et ça la rend particulière. Ça fonctionne vraiment bien Gossip Girl cette année. Blair, moi j'aime beaucoup ce qui se passe chez les adultes, j'aime bien cette histoire avec la mère de Blair et son nouveau mari. Je trouve que ça fonctionne bien, c'est Gossip Girl, enfin, c'est du teen soap, mais ça fonctionne.
Faut juste qu'il vire Jenny, parce que...
Mais non, même Jenny, elle est marrante, enfin voilà, elle a 15 ans, elle fait sa ligne de couture, elle s'en va de chez ses parents, mais ça fonctionne, elle est marrante. Alors ouais, d'accord, ses yeux charbon, là, bon, c'est pas du meilleur goût, et puis sa pauvre coupe des années 80, là, ça fonctionne pas terriblement. Ouais, et puis
quand Mini Coupe brûle sa robe dans la poubelle, mais j'avais juste envie de la jeter dans la poubelle aussi avec, quoi. C'est insupportable.
Moi, je suis d'accord pour dire que Gossip Girl, c'est plus réussi que Dirty Sexy Money. Il y a pas de problème.
Voilà. On peut passer à d'autres séries.
Mon gros problème avec Gossip Girl cette année, c'est que tout le monde avait l'air de s'extasier devant le couple formé par Blair et Chuck, qui a pris un temps d'antenne pas possible. De la vie de beaucoup de gens, c'était délicieusement pervers, très sexy. Et moi, j'ai pas du tout accroché. Je trouvais que c'était une version du pauvre des liaisons dangereuses. Pas très réussie. J'ai pas trouvé qu'il y avait une alchimie particulière entre les deux personnages. En fait, je trouve que l'acteur qui joue Chuck est pas spécialement bon.
On peut même dire particulièrement
très mauvais. D'ailleurs, dans l'épisode où il enterre son père, c'est particulièrement criant.
Criant.
J'aime beaucoup Blake Lively. J'aime bien son personnage. J'aime bien le personnage de Serena, mais... Je trouve que Gossip Girl, c'est vraiment la série qui a des bonnes idées d'intrigue, mais qui ne sait pas les exploiter. Ouais, ça va vraiment trop vite. À chaque fois qu'il y a une intrigue où je me dis « Ah tiens, ça va être sympa de voir Blair et Serena ennemis pendant toute la saison. » Ça dure un demi-épisode.
Mais justement, c'est pas mal. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que justement, Gossip Girl évite la plupart des clichés qui sont quand il y a un malentendu et que ça bouscule les relations entre deux personnages.
Bah, en général, dans une série habituelle, ça va durer sur 5 ou 6 épisodes avant qu'elle se rende compte que « Ah ben non, j'avais juste entendu la moitié de la conversation, donc on n'a pas de raison de se braquer. » Là, justement, dans Gossip Girl, ça dure un demi-épisode, et puis à la fin, on revient sur des relations un peu plus saines, un peu plus crédibles, mais et puis ça avance.
Ça serait bien quand même que dans Gossip Girl, ils fassent un peu quelques arcs, mais vraiment avec des rebondissements prévus et tout, enfin... Parce qu'on a eu quoi ? On a eu pratiquement aucun arc dans cette série, en fait. On a eu Georgina, et puis...
Bah c'est ça qui est bien, moi, je trouve, c'est que les personnages principaux suffisent à la série. On n'a pas besoin de faire intervenir, ah bah tiens, là, c'est l'arc avec tel nouveau personnage.
Ouais, non, mais je dis là, pas avec des nouveaux personnages, des arcs qui se poursuivent... Ouais.
Bah là, on est dans les conséquences de la mort du père de Chuck. Là, Chuck, il va devenir super riche... Et puis on va voir, il va y avoir un nouveau personnage quand même.
Oui.
Ça aussi c'était, enfin. Non mais je veux dire, Gossip Girl c'est du soap, donc pourquoi effectivement ne pas ramener le frère ou la sœur cachée des deux héros qui sortent ensemble et qui maintenant vont avoir quelqu'un, enfin, vont avoir un demi-frère ou une demi-sœur en commun.
C'est exactement la même chose. Enfin, il se passe exactement le même rebondissement dans Beverly Hills. Enfin, dans 90210, où les deux, c'est pas un couple, hein, mais il y a la gentille et la méchante, et ben, elles se rendent compte qu'elles ont un frère en commun.
Oh là là. Et ce sera tout sur 90210.
Moi voilà, c'était les seules séries qu'on regarde à peu près tous en commun cet hiver. Est-ce qu'il y a des séries dont vous souhaitez absolument parler, même si on les regarde pas tous les trois? Apparemment la réponse est non.
Que Terminator c'est très bien. Il faudrait qu'il y en ait qui regardent avant que ça se termine, quoi.
Et ça aussi, le problème de Terminator, c'est que bon, si on s'y est pas mis, comme on sait que ça va être annulé à la fin de la saison, quel est l'intérêt de rattraper.
Et qu'est-ce que c'est que cet état d'esprit? On se met pas à une série parce qu'elle va être. On se met à une série parce qu'elle est bien, pas parce qu'elle va être annulée.
Ah bah moi,
sinon personne ne serait jamais mis à Friday Night Lights.
Bah moi, bizarrement, maintenant, quand je sais qu'une série va pas durer plus de deux saisons, j'ai juste pas envie de m'y mettre parce que. Je sais pas, ça. Je trouve que les séries sont de plus en plus courtes et. Avant, une série, c'était 5-6 saisons en général. Maintenant, en général, s'il y a 2 saisons et demie ou 1 saison et demie, on est content. Mais si c'est, j'en ai marre de me mettre à des séries pour savoir que ça s'arrête au bout de 15 épisodes, sans conclusion, sans rien. C'est comme Dirty Sexy Money, ça s'arrête, c'est pas grave, c'était pas une série que j'aimais bien. Mais c'est quand même un peu dommage.
On va pas parler de The Shield, la 7e saison, puisque vous n'avez pas vu cette 7e saison, mais ça nous permet quand même une super transition pour le rattrapage des vacances, puisque qu'est-ce que vous regardez alors qu'il n'y a plus d'inédit à la télévision, tous les deux ?
The Shield.
Voilà.
Les premières saisons ?
Ouais, les premières saisons. On en est tous les deux à la saison 2, alors qu'on la regarde pas ensemble.
Alors la première saison, moi j'ai été surpris parce que ça a pas du tout vieilli pour le coup, alors que ça a quand même plus de 7 ans.
Ouais maintenant, ouais.
Et même niveau réalisation, niveau dialogue, ça a pas... Je trouve que c'est très moderne. Bon, c'est très bien. Enfin, je me demande, comme souvent quand je découvre une bonne série avec 10 ans de retard, je me demande pourquoi j'ai pas commencé plus tôt. Je trouve ça très réussi. Je pense que j'arriverai à la saison 7 d'ici cet été. Donc...
Vous avez vraiment de la chance parce que The Shield fait partie des rares séries qui en plus s'améliorent de saison en saison et les deux dernières mais sont juste incroyables, vous avez trop de la chance.
Sinon, moi j'ai découvert Angela 15 ans récemment et c'était super bien, ça m'a vraiment surpris. Bon d'accord, ça a vachement vieilli en niveau image, enfin voilà, ça m'a choqué au début, j'ai dit, oh mon dieu qu'est-ce que c'est laid. Mais mon état de choc, j'ai trouvé ça incroyablement bien écrit. Et vraiment, je regrette qu'il n'y ait pas autant de séries sur les adolescents qui soient si bien écrites. Même, je trouve que ça a pas vieilli. Enfin, il y a plein de thèmes qui m'ont parlé. Et je trouvais que c'était une série vachement...
Toi non plus, tu sais pas lire et t'as trouvé que aborder le problème, ça t'a vachement touché.
Ouais, carrément. Non, mais... voilà, il m'a coupé. Non, c'était vraiment intéressant. Bon, à des moments, je trouvais qu'ils en faisaient trop sur les parents. C'est un truc qui serait un peu repris dans Z aussi plus tard. Mais au-delà de ça, il y avait des personnages vachement bien écrits, une utilisation de la voix off intelligente.
Ah oui, pour le coup, effectivement, Grey's Anatomy ferait bien de s'inspirer
d'Angela 15 ans. Voilà, il y a plein de séries à voix off qui feraient bien de s'inspirer d'Angela 15 ans. Et puis, non, vraiment des trucs bien écrits. Bon, c'est pas une série où il y avait vraiment des arcs, mais c'était bien écrit, et même, bon, ça n'a pas vraiment de conclusion, mais les 19 épisodes m'ont bien plu, à part deux épisodes, l'épisode d'Halloween et l'épisode de Noël, où enfin, quand ils s'essayent à des trucs thèmes, ça foire un peu surnaturel. Mais sinon, c'était très très bien, j'ai 15 ans. Un truc qu'il faut voir si on aime les séries.
Moi, j'ai aussi rattrapé la saison 2 de Dexter, qui est effectivement pas mal du tout. Tout le monde a trouvé ça génial. J'ai trouvé que, malheureusement, comme souvent sur les séries Showtime, à la fin, on s'aperçoit que tout se tenait pas complètement, que tout n'est pas complètement maîtrisé. Le dernier épisode est assez décevant, parce que finalement, après, on a une montée en puissance pendant toute la saison, et à la fin, rien n'est réglé de manière satisfaisante. Mais Dexter, ça reste une série qui est très drôle, qui a une ambiance vraiment particulière, mais assez prenante. Et voilà. À voir.
Et moi, j'en ai profité pour rattraper une série dont on parle jamais à Perdusa, moi le premier, c'est Everybody Hates Chris. Et je vous confirme, la série n'a pas été annulée, elle est toujours diffusée. Il y a eu 10 épisodes de diffusée.
Pourquoi ?
C'est d'autant pourquoi c'est pas annulé ? Bon, je sais pas s'il y a des gens qui la regardent, mais en tout cas, c'est vraiment vachement bien. Ça continue à être aussi bien que ça l'était les saisons précédentes. Ça continue à jouer sur les clichés sans que ça vire dans la caricature. C'est la seule série familiale où on n'a pas envie de tuer aucun des personnages. Les acteurs qui jouent les parents ils sont vraiment, vraiment excellentissimes. Chris vieillit. Et ça fonctionne toujours, il est passé au lycée. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup cette série. Comme dans Scrubs, il y a plein de petites micro-scènes qui illustrent l'imagination du personnage principal. Et bah, au contraire de Scrubs, c'est jamais lourd, ça dure le temps qu'il faut, c'est toujours vachement bien utilisé, ça reste vachement drôle. Et il y a un épisode, le troisième épisode de la saison 4, où il y a une parodie du Cosby Show, mais qui est à mourir de rire. C'est presque aussi drôle que All Christine. Ça vaut tous les épisodes de 30 Rock de cette saison, qui, soit dit au passant, est juste consternante cette année. Enfin, je ne sais pas si vous regardez.
Non.
Non, bah, vous avez bien de la chance.
Tina Fey a dû être surexposée. Tina Fey avec Sarah Palin. Donc,
Voilà, cette année, le season première de 30 Rock était bien, et après, ça va de pire en pire. C'est même plus drôle, c'est redondant, c'est juste triste. Hein. Heureusement qu'il y a Alec Baldwin qui fait du Alec Baldwin, mais sinon, c'est plus drôle. Donc pour une sitcom, c'est un souci. Non, mais Everybody Hates Chris, c'est vraiment... Et c'est toujours régulier, chaque épisode, il n'y a rien de surprenant, c'est pas révolutionnaire, mais c'est régulier. Enfin, il faudrait que les gens se mettent à cette série, sachant que même moi j'ai du mal et j'y pense jamais, mais voilà, c'est vachement bien. Voilà, je voulais partager mon enthousiasme sur cette toute petite série. Puis une série avec des noirs, en ce moment à la télé, il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Mais si, il y a une nouvelle série qui s'appelle Lincoln, quelque chose qui passe juste avant ou après Greek sur ABC Family.
Dans Terminator, il y a un noir.
Je pense.
Un petit top 3 quand même de nos séries favorites de 2008, c'est-à-dire de... Et on va pouvoir prendre les séries qui ont été diffusées de janvier 2008 à décembre 2008 pour pas être trop redondant par rapport à ce formidable classement qui a été publié dans notre dernière semaine à nous.
Ouais, enfin, où j'ai été castré, hein, merci Jules.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais attends... T'as bien vu, les nouveaux ne sont pas dans le tableau.
C'est normal, ce sont des choses qui se méritent. Et si jamais vous continuez à écrire et à délivrer des reviews pertinentes à l'heure, vous pourrez éventuellement avoir cet énorme privilège.
Excusez-moi, vous avez fait combien de reviews depuis la rentrée, vous
deux ?
Bah, aucune.
Voilà, c'est le privilège de l'ancienneté. Voilà, nous...
Nous sommes devenus l'âme du site, c'est donc on n'a même plus besoin d'écrire. On a le droit de noter. Bon bah Tom, toi qui étais tellement frustré, donne-nous les trois séries qui t'ont le plus marqué dans cette année 2008.
Ah bah comme je l'ai dit un peu en, le tableau, deuxième tableau où j'ai le droit d'apparaître, Friday Night Lights qui est toujours un exemple de maîtrise tant scénaristique que technique, c'est toujours excellent. Il y avait des problèmes dans la saison 2, mais la saison 3 est super bien, même si, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, je ne vais pas être trop déçu quand ça va s'arrêter, parce qu'en fait, je pense que ça a ses limites. C'est une série qui ne se renouvelle pas énormément, c'est toujours super bien écrit, mais il y a quelques épisodes, on a reparlé des problèmes.
Non, il faut juste la dire, les séries qu'on aime. Pardon. Sans dévoiler, c'est surtout intéressé, puisque je vais sans doute me remettre à Friday Night Lights dans 2 jours, j'ai juste pas envie d'être spoilé. Donc tu pourras raconter ce que tu veux sur tes 2 prochaines séries, puisqu'il y en a une, je l'ai déjà vue, et l'autre, elle m'intéresse pas du tout.
Voilà, donc Friday Night Lights, True Blood, on en a déjà parlé, et Pushing Daisies, qui est super bien. Bon, moi, j'ai jamais regardé en fait Pushing Daisies semaine après semaine. J'ai toujours fait des rapidement. Donc, je sais pas ce que ça fait d'attendre. Peut-être que finalement, c'est.
Je pense que l'attente doit être absolument insupportable.
Non, mais en fait, à mon avis, on se lasse semaine après semaine. Moi, je les enchaîne, donc ça me plaît. Je trouve ça très marrant.
Mais t'as pas eu une petite réaction organique à autant de Pushing Daisies la semaine dernière?
Non, mais
j'ai jamais vu
jaune
vomiant partout pendant une journée.
C'était pas à cause de Pushing Daisy.
Moi, on blâme les virus. Moi, je suis pas sûr qu'une overdose de pâquerettes et d'amour où on n'a pas le droit de se toucher.
Non, c'est super bien. Surtout depuis quelques épisodes, il y a des arcs et puis des rebondissements dans tous les sens. C'est trop bien. Il y a des pères qui reviennent à la vie. Il y a des meurtres, ils enterrent des gens qui viennent de tuer.
Pas des meurtres dans chaque épisode, c'est pas le principe.
Non, mais sauf que là, c'est les héros qui tuent les gens, quoi. Mais wow. Pour de vrai, quoi, tu vois. Non, c'est trop
bien. En fait, c'est super sombre.
Ouais, trop, c'est une série sombre et violente.
Série sombre, mais avec des couleurs saturées. Voilà. C'est ça qui fait toute son originalité.
J'aime beaucoup Pushing Daisies. Et je sais que ça va être annulé. Enfin, c'est annulé même.
Annulé, et puis les épisodes qui sont pas diffusés seront pas diffusés.
Non. Vraiment, ça aurait été une série que j'aurais beaucoup de plaisir à voir. J'ai jamais râlé devant Pushing Daisies, quoi. Donc
juste vomi, quoi.
Non, c'est faux. Et voilà, c'est mon top 3.
Et Tigrou, ton top 3 à toi?
Moi, je mettrais In Treatment en tête, parce que c'était quand même la série de 2008 où j'ai réussi à m'enchaîner, 50 épisodes. 43 épisodes de 20 minutes chacun, c'est ça? En moins d'une semaine. Donc, sans me lasser, je trouvais que c'était. C'est l'une des rares séries que j'ai trouvé vraiment novatrice l'an dernier. Bon, même si finalement c'était juste une copie d'un truc en Israël, mais c'était. Non, je trouvais ça très réussi, de très bons acteurs, très bons dialogues. Une série où je me suis vraiment senti impliqué. J'étais vraiment à fond pendant les derniers épisodes pour où chaque personnage finalement découvre un petit peu les raisons de son mal-être. Et en plus, on se rend compte que Paul est un très mauvais psy, puisque au final, l'un de ses patients meurt, l'autre, le couple qui traitait se sépare, il se tape une de ses patientes, ou presque. Donc, finalement, il a
info. Voilà.
Donc, il n'aura pas aidé grand monde, mais la série était très réussie.
En deux,
True Blood, mais bon, j'ai déjà dit pourquoi. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre la série. Et je mettrais Wits aussi, parce que je trouvais que la saison 4 était un peu inégale, comme souvent dans Wits. Il y avait beaucoup d'intrigues, la plupart des intrigues qui touchaient les personnages secondaires étaient un peu dispensables. En particulier, Celia, qui avait une intrigue assez ridicule, où elle devient accro à la cocaïne en moins de 30 secondes. Enfin, au moins c'était un peu moralisateur pour Wits, ça nous changeait. Mais il reste que, dans l'ensemble, la saison était quand même très bien plus réussie que la troisième. Avec une vraie montée en puissance dans les derniers épisodes, et Marie-Louise Parker qui, comme d'habitude, tient la série sur ses épaules et offre d'excellentes performances pendant toute la saison. Et je suis très impatient de voir la suite pour Wits, pour le coup. Et toi, Jérôme?
Ben moi, je me rends compte que les séries de mon top 3 vont pas me permettre d'être impatient, puisqu'il y en a deux qui se sont terminées cette année, c'est The Shield et The Wire. La saison 5 de The Wire, diffusée au début de l'année, est peut-être la plus faible rétrospectivement des 5, mais ben, ça n'empêche pas qu'une saison un petit peu faiblarde de The Wire, c'est quand même... ce qu'il y a de mieux à la télé sur toute une année. La saison 7 de The Shield, qui était mais juste à tomber par terre épisode après épisode, avec un avant-dernier épisode d'une puissance démentielle qui m'avait réconcilié quasiment avec les séries télé. Et puis In Treatment, moi aussi en 3. Je ne vais pas m'étendre, mais effectivement, moi, j'attends beaucoup, beaucoup de la saison 2 et de ces nouveaux patients.
On sait qui joueront les patients ?
Il y a... le père Paul, de... Ce sera toujours Paul, il y aura toujours Gina. Mm-hmm. Il y a le vieux de Fraser qui va jouer dedans. Et je crois que, ouais, ils ont... Je pense que si vous regardez sur internet, vous devrez trouver la liste. Je ne sais pas s'ils vont faire comme dans la série israélienne où en saison 2, on a le fils de, du couple qui s'est séparé, qui entre en thérapie.
Mais c'est genre 18 ans plus tard ?
Mais non, il n'a pas 9 ou 10 ans. Ou,
ah, le fils qu'ils ont déjà, pas le bébé.
Le fils, ouais, le
ah
fils.
Ah oui, mais non, ils ont avorté leur bébé. Ça pourrait être intéressant s'ils trouvent un gamin de 10 ans pas insupportable. Pourquoi pas?
Mais ça en était bien sorti quand même avec une ado pas insupportable, la gymnaste.
Oui, mais c'est plus facile de trouver une actrice de 16 ans pas insupportable qu'un gamin de 10 ans.
Mais il pourrait prendre le fils de.
De Nancy?
Non, de. Comment il s'appelle dans Ugly Betty?
Ah, Justin! Le problème de Justin, c'est que en fait, je pense que c'est pas un très bon acteur, parce que quand tu le vois donner des interviews, il est exactement comme son personnage. Et du coup, je me sens un peu mal pour lui, parce que...
J'avais lu des interviews du créateur qui disaient que, quand même, dans la vie, l'acteur était pire que Justin dans... Donc il réussit à se réfréner un peu dans la série, voilà. Ça doit être ça, son grand talent d'acteur.
Alors que Marc, pas du tout, mais...
Ah ouais? Marc, c'est un gros hétéro beauf dans la vie ?
Ben, quand tu le vois dans les interviews, c'est pas du tout le personnage.
Oh !
Soit.
Allez, une dernière petite partie de ce podcast. Qu'attend-on de 2009 ? A-t-on encore un peu d'espoir dans le monde des séries télé ? Ou est-on complètement navré, qu'on n'attend plus rien du tout et qu'on éteindra notre télé ? Y a-t-il des choses qui vous font envie pour la saison suivante ?
Carrément. Bah oui, Damages, ça...
Damages, tu veux dire
Damages, alright.
Bah ça, la série avec la vieille actrice là, qui cuit des lapins,
c'est ça. La série avec la vieille poule, qui est dans la cabinet d'avocat, où il y a vraiment pas mal de tensions, des problèmes, une espèce de diable s'habille en Prada, un peu plus sombre, quoi... qui était sympathique et qu'on va avoir beaucoup de plaisir à retrouver. Non, vraiment, c'était...
Ouais, oui, très si bien m'a dit, c'était bien, mais son problème, c'est que... c'était pas aussi génial que ça aurait pu être, ouais. Et que ce que ça pouvait laisser présager, il y avait un énorme potentiel. Ils avaient, ouais, ils ont une distribution assez démentielle, mais au final, ça reste quand même juste une bonne petite série policière avec un gimmick de mise en scène. Ouais, moi je suis pas tant que ça impatient de revoir Damages.
Moi je suis impatient parce que je trouve qu'effectivement la saison 1, il y avait beaucoup de potentiel, c'était pas excellent, c'était bien, mais il y avait une vraie montée en puissance et je trouvais que le dernier épisode
avait vraiment bien conclu, voilà. L'ensemble, ouais. Avait surtout, rattrapé toutes les grosses faiblesses
de la moitié. Ça
montrait
qu'il y avait une vraie maîtrise dans la série, ouais. C'était pas gratuit, ça avait réussi à me surprendre alors que je pensais pas être surpris. J'avais pas du tout vu venir le coup de qui a vraiment essayé d'assassiner Rosie Byrne. Et du coup, je me dis que pour la saison 2, pour peu qu'ils aient pris vraiment le temps de développer leur intrigue...
En même temps, ils ont mis le temps à la grève des scénaristes. Ça fait quoi, un an et demi que ça a été diffusé?
Donc, espérons qu'ils ont travaillé pendant la grève, même s'ils n'étaient pas censés le faire. Je me dis qu'il y a du potentiel pour faire justement une vraie, vraie bonne saison 2 qui, cette fois, exploitera pleinement le potentiel de la série.
Non, et puis de toute façon, il y a des bons acteurs. Mais...
voilà, comme c'est sur FX.
Ouais, mais dans Brothers and Sisters aussi, il y a des bons acteurs.
Hein. Dans Nip Tuck aussi.
Oui, mais il n'y a pas des bons scénaristes.
Donc voilà, j'ai beaucoup d'espoir, mais en même temps, je sais que c'est sur FX et que FX, c'est quand même une chaîne sur laquelle parfois on est un peu déçu.
Sur le long terme, sauf que c'est la chaîne de The Shield.
Oui, mais c'est la chaîne de Nip Tuck.
Et en 2009, va y avoir une série là, d'un gars que il y a plein de gens qui aiment bien, qui a réalisé un épisode de The Office, je crois. Et,
qui est apparu dans Véronica Mars.
Qui a fait des comic books aussi maintenant.
Il s'essaye à tout, quoi. Il a fait un film aussi. Non
oui. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas que quand même, c'est un super défi de sa part de prendre la plus mauvaise actrice de Buffy et d'essayer de la mettre au centre d'une série
Eh ben.
Bah si.
Ça m'a l'air très ambitieux parce qu'ils ont, il y a une scène de la série qui circule sur internet où Eliza Dushku, alors je sais pas, c'est peut-être son rôle parce qu'effectivement elle joue une espèce de fille qui a pas d'âme ou un truc comme ça ou pas de mémoire, donc c'est peut-être
pas un robot,
mais je sais pas, elle ressemble à un robot en fait, enfin, la manière dont elle joue,
c'est là des...
elle a pas vraiment d'expression.
Non,
je crois qu'ils effacent la mémoire des
gens.
Mais bon, alors on va dire que Eliza Dushku jouait comme ça parce que c'est son personnage qui est complètement inexpressif et avec que des expressions neutres.
Ça lui va très bien.
Parce que ça m'a pas du tout donné envie de regarder la série. Et apparemment, les premières critiques sont désastreuses.
Donc, ils ont retourné. Enfin, le premier pilote a été mis à la poubelle où il va passer comme
d'habitude.
Ils en ont retourné un autre. Ça va être diffusé le vendredi soir. Est-ce que vous pensez que. Et la Fox va pas interrompre la diffusion du premier épisode mais non c'est pas possible, non on peut pas diffuser ça.
Moi je parie sur 5 ou 6 épisodes diffusés et 13 épisodes de tournée que les fans s'arracheront en DVD en,
les fans en tu veux dire c'est ouais. Les gens qui sont capables d'acheter un truc fait en vidéo avec le mec d'How I Met Your Mother et qui en pleure de bonheur parce qu'ils ont un DVD sur lequel il y a 15 minutes avec un mec qui chante pas très bien. C'est ça.
Ceux-là même.
Bah, ceux qui, 10 ans plus tard, continuent à parler de Firefly comme de la meilleure série de tous les temps, alors que concrètement, il y a eu 12 épisodes pas diffusés dans l'ordre. C'était pas mal, et puis un film sympathique, mais.
Loin de la révolution.
Non, mais de toute façon, Joss Whedon, depuis Buffy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit des comic books ratés, il a réalisé un film raté.
Ouais, mais il donne des interviews vachement bien sur la condition de la femme, et ça, c'est super.
Laissons-lui sa chance.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre en 2009? Il y a Battlestar Galactica qui revient. Ouais. Hein. Alors, qui va être le dernier Cylon? C'est la question qu'on attend tous. Ouais,
Je sais pas. Mais, non, je suis plutôt impatient moi, de voir la suite de Battlestar Galactica. Je trouve le début de saison 4. Oui, la fin. Bah, surtout, la fin.
La fin.
La fin, enfin, en terminé. Non, j'ai trouvé ça. J'ai bien aimé le début de la première partie de la saison 4, je trouvais que c'était à nouveau, ça se suivait. Maintenant que je regarde vraiment ça comme une série de science-fiction et pas du tout comme une série ayant de quelconque prétention d'intelligence. Et en tant que série de science-fiction, ça fonctionnait plutôt bien cette année. Donc voilà, j'attends de voir la suite. Ça devrait être pas mal à mon avis. Même si je pense que tout le monde va être déçu par la révélation de l'identité du dernier.
Moi j'espère juste que ça va pas arriver dans le dernier épisode de la saison. Enfin, ça va être dans le premier épisode et qu'on va suivre un peu les conséquences de cette révélation et de ce cinquième
match. En même temps, on a déjà des révélations sur 4 personnes qui sont des Cylons finalement, alors qu'ils ne le savaient pas et c'était pas spécialement intéressant à suivre en saison 4. Donc. Moi, je trouverais ça bien qu'il le révèle même pas, en fait. Fin ouverte.
Ouais, ça serait pas
ou
mal.
Ou alors, il n'y en a pas. C'est un personnage qu'on n'a jamais vu.
Personne ne sait qui c'est, même les... Enfin, on remarque les Cylons, ils ne le savent pas. Enfin, et on ne saura jamais.
Un peu comme Lost.
Lost qui revient, ouais. Bah, le seul intérêt du retour de Lost, c'est qu'on va avoir des reviews de jus, mais...
Oh bah ça va être quand même super marrant.
Moi j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé que ça donnait vachement envie. Et pourtant j'ai même pas voulu regarder la saison 4 tellement j'aime pas cette série. Mais ils font des bandes-annonces très réussies. Donc,
Ouais, moi, non, je me rappelle même plus si j'ai aimé la saison 4 ou pas. Mais
je crois que tu as aimé puisque tu m'avais dit que je devais regarder. Donc,
Ouais, donc ça veut dire que j'ai bien aimé. Non, c'était vachement bien la saison 4 de Lost et j'ai super hâte du retour
de...
Mais c'est la dernière saison, non?
Non, l'avant-dernière.
Ah, il y a encore...
Et ouais, jusqu'en 2010. Mais ouais, non, c'est une série sympathique. Puis c'est vrai que quand on a des revues sur Perdusa, ça donne une autre dimension aussi quand on la regarde.
Ah ouais, t'es pas rancunier, hein. Et si moi il y a Big Love que j'attends depuis juste depuis cet été puisque j'ai regardé les deux saisons cet été, mais j'imagine que Delphine qui elle a dû voir Delphine Fertis qui a dû voir la saison 2 de Big Love il y a un an et demi, quasiment deux ans, doit ronger son frein comme une dingue. Non, j'ai mal utilisé cette expression.
Je sais pas, ça m'évoque quelque chose. Que
non. Ouais, bon bah bref, j'ai super hâte de retrouver les Mormons d'HBO, ben voilà, et surtout les femmes de Big Love. Voilà, ça revient mi-janvier, j'ai vraiment l'impression que, ben non, je le sais, c'est la série que j'attends le plus de 2009, voilà.
Voilà, bon. Et bien sur ce, on se retrouve en 2009.
Ben voilà.
Ouais. Hein.
À bientôt.
Au revoir.